enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Deuxième cours sur les différentes onctions. Dans le premier cours, nous avons vu quelques généralités de définition sur l'onction. Je vous rappelle que si vous voulez fonder votre vie chrétienne, il faut la fonder sur trois piliers, ainsi que votre ministère, si vous êtes appelé au ministère et si vous êtes mis à part pour le ministère. Ces trois piliers, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole que vous apprenez au travers de tout un tas de moyens et au travers du ministère d'enseignement, bien sûr, mais ça peut être aussi au travers de différents médiums, comme des livres, des DVD, des CD, etc., 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 qui découlent du ministère d'enseignement, bien sûr. Ensuite, l'onction. L'onction, ça se reçoit. C'est une mesure de l'Esprit de Dieu qu'on reçoit et pour être dans une fonction, pour nous tenir dans une position que Dieu nous a assignée. Et bien évidemment, dans tout cela, je vous ai montré que quelqu'un peut avoir une grande connaissance de la parole, avoir une excellente formation, avoir une puissante onction. Mais s'il n'a pas le caractère de Dieu qui est infusé en lui, attention, cette personne ne restera pas sur la piste. Être sur la piste est une chose, d'ailleurs, une chose importante. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais sur la piste de leur destinée, malheureusement, qui se mettent toujours sur d'autres pistes, qui essaient de courir d'autres courses. Et ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a ses lois et il faut se soumettre aux lois divines. Et à ce moment-là, si le caractère n'est pas forgé en même temps, eh bien tout peut exploser et on peut complètement s'écarter de ce que le Seigneur veut pour nous, à cause de nous justement. Nous sommes notre propre ennemi. Je vous rappelle que nous sommes notre pire ennemi. Ce n'est pas le diable quand on connaît la parole ou quand on marche dans l'onction, mais c'est nous-mêmes, c'est notre propre caractère qui peut nous jouer les pires tours du monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le verbe « oindre », je vous ai dit dans le grec, c'est le verbe « chrio » ou « chrio », C-H-R-I-O. Il signifie se frotter avec de l'huile, avec du parfum, et s'en imprégner, si vous préférez. Alors, on a vu que Christ, c'est un dérivé de ce verbe, et que ça veut dire celui qui est oint, chrétien voulant dire petit oint. Et je vous ai montré que dans l'Ancien Testament, eh bien, on consacrait des gens qui étaient oints, et on consacrait aussi des objets au niveau de l'onction. Je vous ai montré qu'il y a onction de joie, il y a aussi onction de puissance. Et je vous ai montré aussi que dans Luc 4, Jésus lit Ésaïe chapitre 61, une partie, une portion. Et l'onction doit porter des fruits. L'onction n'est pas une sensation, l'onction n'est pas une langue. L'onction n'est pas le fait de tomber, c'est pas une manifestation. Mais l'onction doit porter des fruits. C'est la puissance tangible, la présence tangible de Dieu en manifestation. Et l'important, ce n'est pas la manifestation, l'important, c'est le fruit. C'est toujours là-dessus que vous devez mettre l'accent. Les gens sont très impressionnables quand ils voient des manifestations et après, ils ont tendance à avoir les yeux, parce qu'ils sont charnels, sur les manifestations. Et c'est une grave erreur. Et parfois, ça peut casser des églises, ça peut casser des ministères entiers que d'avoir cette attitude-là et d'encourager surtout cette attitude-là, ce qu'il ne faut jamais, jamais faire. Toujours avoir les yeux sur le Seigneur. Ne jamais avoir les yeux sur les manifestations et les fruits que nous portons, c'est toujours pour la gloire du Seigneur. C'est comme ça qu'on reste sur la piste, entre autres. Alors, je vous ai montré que l'onction manifeste l'amour, la compassion de Christ pour une humanité qui se meurt, une humanité qui souffre. Et c'est ce que Dieu veut faire, justement, c'est amener sa présence et d'un seul coup changer les circonstances, changer tout ce qui peut être satanique et qui peut être un joug. C'est ce qu'on a vu aussi dans Ésaïe 10, 27 et Acte 10, 38. Je vous ai montré aussi une chose très importante, c'est que l'onction se développe et c'est notre relation avec le Saint-Esprit qui en dépend. C'est-à-dire que plus vous développez votre relation avec le Saint-Esprit lorsque vous êtes loin, plus en fait Dieu pourra vous utiliser. L'onction, nous le verrons, c'est un don qui nous est donné, mais ce don doit se développer. Et si ce don se développe, alors de plus en plus que nous exerçons ce don selon l'amour de Christ, selon les règles spirituelles, selon la sainteté, alors Dieu peut nous utiliser de plus en plus. Et c'est là où l'influence du royaume devient de plus en plus forte sur un être humain, sur un ministère, mais aussi sur un chrétien. Là où il se trouve, dans le milieu dans lequel il se trouve, dans sa famille, dans son boulot, dans son cercle d'amis, etc., etc., c'est là où il porte des fruits pour la gloire du Seigneur. Alors nous en étions dans la deuxième partie de cette première leçon, qui est les différentes onctions de l'Ancien Testament. Alors je vous ai montré que d'abord, les deux onctions qui étaient en opération jusqu'à la loi de Moïse, c'était l'onction du prophète et l'onction du sacrificateur. On n'a que deux exemples clairs, mais d'autres exemples qui sont évidents aussi. Par exemple, Noé, c'est évident que Noé était prophète, ça transpire. Il donne certaines prophéties, etc., etc. Et on a seulement dans la Bible certaines choses que Noé a dites par le Saint-Esprit, mais il y en a certainement bien d'autres. Et c'est clair que pour moi, il était prophète, mais ce n'était pas le seul. Maintenant, on peut dire clairement, parce que c'est clairement marqué noir sur blanc dans la Bible, Abraham était prophète. Donc on sait forcément qu'il y avait une onction prophétique qui œuvrait avant même la loi de Moïse. Ensuite, nous avons vu l'exemple du sacrificateur. Ça, par contre, c'est beaucoup plus rare. Nous avons l'unique exemple de Melchisédek, qui, lui, était sacrificateur. C'est clair qu'il était approuvé par Dieu, et on ne peut pas être sacrificateur approuvé par Dieu si on n'a pas d'onction. S'il n'avait pas été approuvé par Dieu, Abraham se serait écarté, bien évidemment. Ça, c'est très clair. Okay. Alors, on a aussi un exemple de prophète avec l'histoire de Balaam et Balak dans l'Ancien Testament, dans cette histoire. Où cet homme sort, ce prophète, on ne sait pas d'où il sort. D'ailleurs, c'est une très bonne illustration pour la perversion de l'onction, justement. On pourrait aussi utiliser cette histoire et montrer un petit peu comment quelqu'un qui est loin, parfois, peut dévier à ce point-là. Et il a failli très, très mal tourner. Alors, dans la loi, je vous ai montré que Dieu va mettre des onctions. Et on va voir, d'ailleurs, dans l'Exode, chapitre 28. Exode 28. Au verset 41, c'est Dieu qui ordonne à Moïse quelque chose d'important et qui est unique là, qui nous montre quelque chose. Il est dit, tu en revêtiras ton frère Aaron, Exode 28, 41, et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les sanctifieras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Alors ça, c'est très important parce que c'est la première fois où on voit une chose. Un homme sous l'ordre de Dieu oindre un autre homme. Donc ça, c'est la toute première fois dans la Bible. D'accord ? Pendant les 2500 ans là, de l'histoire de l'humanité, les premiers 2500 ans, on voit prophète, on voit sacrificateur, mais on ne sait pas comment ces gens sont devenus prophètes ou sacrificateurs. D'accord ? On ne sait pas. Là, ici, dans la loi de Moïse, Dieu dit clairement, pour ton frère Aaron et ses fils, tu leur donneras l'onction. Tu leur donneras l'onction. Tu les investiras. Tu les feras reconnaître publiquement. Tu les sanctifieras, c'est-à-dire tu les mettras à part pour moi. Et ils exerceront pour moi le sacerdoce, c'est-à-dire le service. Le sacerdoce, c'est un service approuvé pour Dieu. Service approuvé pour Dieu et par Dieu. Donc là, c'est la toute première fois où on voit ça. Un homme qui a donc une mission de pouvoir, sur un ordre de Dieu, à un moment donné, oindre quelqu'un. Ok ? Et on va voir comment ça va se faire, parce qu'on va voir d'autres exemples dans l'Ancien Testament où Dieu va parler à des prophètes pour oindre des gens. Donc ça, c'est important à comprendre. Mais là aussi, il faut bien bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que sinon, ça peut être dangereux et on peut avoir de gros dérapages. Justement. C'est là où il faut faire très très attention. Mais là, c'est vraiment intéressant de remarquer ce verset, parce que Dieu donne un ordre à Moïse d'aller oindre son frère et ses fils en vue d'un service que Dieu va approuver. Et c'est ce qui se passera dans la loi, etc., etc. Donc, c'est ce que Moïse va faire. Verset 7, il est dit, du chapitre 29, « Tu prendras l'huile d'onction et tu la verseras sur sa tête et tu l'oindras. » Au 29, verset 7. Donc, on voit ici que ça va se faire d'une façon pratique avec de l'huile. L'huile, nous savons, nous l'avons étudié, c'est le symbole, un des symboles du Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'était une cérémonie d'ordination, entre guillemets. Où là, il y avait quelqu'un qui était approuvé par Dieu et qui
à qui Dieu avait donné un ordre. Remarquez bien que c'est pas l'initiative d'une personne. Mais c'est bien à l'initiative de Dieu qui se sert d'une personne. Et il y a des histoires, un certain nombre de, je dirais, de personnes qui ont reçu des onctions parce que d'autres ont imposé les mains à ces personnes-là. On a un exemple dans la région, c'est Robert Kayanja. Robert Kayanja, il y a une puissante transmission de l'onction qu'il y avait sur Tel Osborne quand il a reçu son onction pour le ministère de miracles et guérisons. Ça, c'est très clair. Il y a d'autres exemples dans l'histoire de l'Église. Bénin a prié pour Claudio Freitzen aussi, c'est un prédicateur argentin qui a reçu vraiment une puissante onction quand il a prié pour lui. Et quand il est revenu en Argentine, d'un seul coup, son ministère a explosé. Etc., etc. Il y a plusieurs exemples. Mais il y a aussi beaucoup de gens, comme le disait Kenneth Hagin, qui ont imposé des mains vides sur des têtes vides. Ça, il y en a beaucoup. Hein, qui se sont proclamés grands prophètes des nations ou apôtres des étoiles et de la lune, hein, ou de ce que vous voulez. Enfin bref, ça, il y en a eu beaucoup. Ok. Donc, là aussi, vous voyez, il y a les travers. Il faut vraiment... C'est clair que dans l'Ancien Testament, nous le voyons, c'est Dieu qui a ordonné à Moïse. C'est pas Moïse qui a dit « Mon cher frère, tu vois, le Seigneur m'a fait prophète. Maintenant, je vais t'imposer les mains. Et tu seras souverain sacrificateur. Je te donne l'onction. » Voilà. Ça, c'est une grave erreur qu'il faut jamais faire. D'accord ? Là, on voit vraiment Dieu dire à Moïse. C'était un ordre. Moïse va recevoir cet ordre et il va obéir à cet ordre tel que Dieu va lui dire. D'accord ? Donc c'est pour ça que, prudence, parce que je sais qu'il y a tout un tas de mysticisme qui se fait à droite, à gauche, où des serviteurs de Dieu imposent des mains à certaines personnes, etc., etc., et cette loi est violée. Hein, on peut reconnaître l'onction sur quelqu'un. Alors, on parlera ordination, parce que quand on ordonne quelqu'un, c'est en fait on reconnaît ni plus ni moins que cette personne a une onction, et que cette onction est en fonctionnement, c'est tout. C'est ça une ordination, en fait. D'accord ? Parce que je sais qu'il y a cette question qui est suscitée souvent, en disant, mais qu'est-ce que c'est qu'une ordination ? Alors, il y a des gens qui font des grandes, enfin des dénominations qui font de grandes cérémonies d'ordination. Mais s'il n'y a pas d'onction, c'est juste un bout de papier qu'on donne à une personne. Hein. C'est ni plus ni moins. Il faut être clair. C'est juste un titre, éventuellement, qu'un homme a proclamé envers un homme. Mais c'est pas ça, avoir une onction. On voit ici clairement que Moïse avait reçu l'ordre du Seigneur. Et il obéit à cet ordre et Dieu va approuver. Parce que si on impose les mains à quelqu'un en lui disant « tu es ceci, tu es cela » et qu'il n'y a pas de fruit, ça veut dire qu'on a fait ça dans la chair. Il faut être clair. Il n'y a pas d'autre terme. C'est la chair. Et Dieu, si Dieu n'approuve pas quelque chose, c'est clair. Quand Dieu approuve, il n'y a rien à dire. Les hommes ont juste à dire « ok, c'est vrai, on reconnaît tel et tel appel avec telle onction sur telle et telle personne. » Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Et en fait, souvent d'ailleurs, on reconnaît la fonction de la personne quand on voit les fruits qu'elle porte et tout. Si vous avez quelqu'un qui prêche l'évangile avec puissance, vous avez juste à dire, c'est un évangéliste, amen. Seigneur, je suis d'accord, c'est toi qui as dit. Et ça se voit. T'as mis ton approbation sur la personne, c'est tout. C'est pour ça que beaucoup de gens s'initient dans des ministères, il faut simplement regarder. Si au bout de 3, 4 ans, 5 ans, vous voyez aucun fruit, ça veut dire que ce n'est pas un ministère, c'est tout. Et c'est là où beaucoup de gens font des erreurs. Alors, on a tellement d'histoires avec ces trucs d'association, de titres et de machins et de bidules, c'est pas l'association qui amène l'onction. C'est pas le titre qui amène l'onction. Mais c'est l'onction qui amène les fruits et qui font que ceux qui connaissent ce que c'est qu'une onction peuvent dire, eh bien voilà, celui-ci vraiment, il a tel et tel ministère. Moi, je connais des personnes comme ça, qui étaient d'ailleurs puissamment utilisées par Dieu, ou qui sont même encore dans une certaine mesure, mais moins parce qu'elles ont fait certaines erreurs, utilisés par Dieu dans certains domaines et qui se sont mis dans certaines fonctions elles-mêmes et ça ne va pas. Entre autres des gens qui sont évangélistes ou qui ont des puissantes onctions de guérison parfois et qui d'un seul coup démarrent une église. Et il y en a plus d'un qui a fait cette erreur-là chez l'évangéliste. Pourquoi ? Parce que l'évangéliste, il est toujours obligé de vivre avec les offrandes et parfois c'est difficile. Et quand on a une église, c'est sûr que les dîmes et les offrandes, ça rentre régulièrement. C'est beaucoup plus facile de faire un budget quand vous avez une église que quand vous êtes un des autres ministères qui tournent. Ça, c'est plus difficile, il faut le dire, c'est clair. Et c'est pour ça que les gens sont plus tentés à avoir des églises quand leur ministère commence à bien marcher. Parce que pourquoi est-ce qu'un évangéliste amène les âmes à Christ et que c'est les âmes à Christ qu'il a amené dans son ministère, qu'il est obligé d'amener dans les églises, ce qui est normal, qu'il doit faire. Et finalement, ces chrétiens que lui-même a amenés donnent leur dîme. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'évangéliste qui crève la faim. Voilà. Erreur de qui? Eh ben oui, on rigole bien, mais c'est une triste vérité. La grave erreur, c'est le manque de respect des pasteurs qui invitent des ministères et qui leur disent que le Seigneur te bénisse, bye bye. Et ça, c'est un drame. Et certains évangélistes, au bout d'un moment, craquent parce qu'ils ont des familles à nourrir, parce que. Et au bout d'un moment, ils se disent, après tout, j'ai amené 100 ou 200 âmes au Seigneur, là, dans ces quelques années, ben, j'aurai déjà mon église et j'aurai déjà un salaire. Et voilà. Et malheureusement, c'est une tentation. Et pas la moindre, je vous le dis. Et c'est dans beaucoup de pays du monde, dans quasiment tous les pays du monde. Moi, j'ai vu même aux États-Unis des gens faire ça. Des gens qui étaient vraiment super utilisés par Dieu. Mais le ministère itinérant, vous savez, c'est pas stable, un ministère itinérant. C'est difficile à supporter. Il y en a qui ont beaucoup souffert avec ça. Parce qu'il faut trimballer les enfants. Et quand vous trimballez vos enfants, ils n'ont pas d'école stable. Donc ils sont obligés de faire des cours par correspondance. Et leurs amis, ils n'en ont pas. Parce qu'ils vont d'endroit en endroit. Et je peux vous dire que sur ces ministères-là, c'est un prix gigantesque à payer. Ah, c'est sûr, les gens qui assistent. Ah, c'était formidable. Ah, il a prié, les boiteux ont marché. Ah, et les sourds ont parlé. Non, ils ont entendu. Amen. je l'ai fait exprès. Pour voir si vous dormez pas. Et les muets ont parlé, etc., etc. Et oui, c'est formidable, sauf que tu sais pas ce qu'il est en train de payer comme prix derrière. Ah oui, mais aujourd'hui, il n'était pas très loin, hein, le frère. Hein. Ah, sauf que tu sais pas le prix qu'il a payé. Et que peut-être ses gosses lui ont dit « t'es un mauvais père » juste avant de partir à la réunion. Ok, on reparlera de toutes ces choses-là, le prix à payer. Ah, ça, beaucoup de gens n'imaginent pas. Et les gens pensent, c'est juste « allez, je vais prêcher devant un micro. Amen, alléluia !» Ouais. Sauf qu'après, il y a tout le reste à gérer. Et beaucoup de gens n'ont aucune idée. Aucune idée de ce qui se passe derrière. Aucune idée. Et c'est un drame pour beaucoup de chrétiens, d'ailleurs. Alors, ayant vu un petit peu comment Moïse avait reçu un ordre pour oindre Aaron et ses fils, maintenant on va voir comment un prophète a reçu un ordre de oindre un roi. Premier roi d'Israël, 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Un texte qu'on connaît bien, en tout cas si vous avez lu votre Bible, vous connaissez ce texte. Il est riche d'enseignements. En tout cas, ça nous montre les principes, certains principes de l'onction et comment ça fonctionnait particulièrement dans l'Ancien Testament. Parce que c'est important de le savoir. Même si il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus pour nous telles quelles dans le Nouveau Testament, il y a des principes qui sont encore là et qui sont importants. Alors, au chapitre 9 de 1 Samuel, et au verset 16, il est dit « Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction. » D'accord ? Là encore, on voit bien, c'est un homme, donc un homme qui est prophète, c'est Samuel, et Dieu lui donne un ordre. Il dit « Je vais t'envoyer quelqu'un et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il soit le roi. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Voilà, donc, c'est l'histoire de l'onction que Saül, le premier roi d'Israël, va recevoir. Là encore, sur un ordre divin. Mais il y a pour l'instant un autre homme, qui est donc, entre guillemets, intermédiaire, qui va être un instrument de Dieu. Bon, pourquoi cela? Parce que principalement, dans l'Ancien Testament, ben, comme ils étaient sans l'Esprit de Dieu, ils n'avaient pas d'onction. Saül n'avait aucune onction avant d'être roi. De toute façon, c'était clair. Soit vous aviez aucune onction dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, soit vous étiez roi ou prophète ou sacrificateur. Mais sinon, vous n'aviez pas d'onction. Donc, pas de direction du Saint-Esprit. Donc, aucun discernement sur ce qui venait de Dieu et ce qui ne venait pas de Dieu. La seule chose qui vous guidait, c'était la loi. Vous voyez ? Mais pour la volonté spécifique, c'était le flou, sauf si vous alliez consulter un prophète. Donc Dieu utilisait les prophètes justement pour amener ce qu'il voulait amener, des onctions différentes directions à droite et à gauche. D'ailleurs, quand on lit cette histoire, Saül lui-même est complètement par terre. Il dit, mais moi je suis d'une petite tribu là d'Israël, tu me parles comme si j'étais un grand quelqu'un de très important, etc. Quand Samuel relisait cette histoire, vous allez voir, il était complètement par terre, complètement étonné. Il disait, mais pourquoi tu me parles comme ça, toi, un prophète? Moi, je suis rien. Je suis un petit. Mais c'est vrai qu'il était grande taille, mais dans le sens, c'était un petit d'un petit coin, bon, d'une famille qui n'était pas pauvre, loin de là, qui avait certaines richesses. Mais quand même, c'était quelqu'un qui, bon, je dirais, il était complètement étonné parce que Dieu ne lui avait pas parlé directement. Dieu avait parlé au prophète parce que il n'y avait pas d'onction sur le peuple, d'une manière générale, le peuple d'Israël. Alors, au chapitre 10, on va voir la pratique. Comment est-ce que Samuel va pratiquer l'ordre que le Seigneur lui a donné? Et là, on va voir encore l'huile qui va être présente, etc. Samuel prit une fiole d'huile, chapitre 10, verset 1, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. » Et à partir de ce moment-là, Saül va vivre des expériences, des signes. Entre autres, il va être parmi une troupe de prophètes et il va se mettre à prophétiser. Il va y avoir une certaine transmission de l'onction très ponctuelle, prophétique sur lui. Il va retrouver les ânesses, etc. Enfin, il va y avoir tout un tas de signes que le prophète lui avait donné. Mais c'est intéressant de voir simplement qu'est-ce que le prophète fait. Il verse de l'huile, symbole du Saint-Esprit, sur la tête. L'onction qui se déverse. D'accord? Et là, il va y avoir un résultat. Le résultat, c'est que Saül va devenir rapidement le chef du peuple d'Israël, c'est-à-dire le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël. Alors ensuite, au chapitre 16, eh bien, cette onction va partir pour aller sur quelqu'un d'autre. Saül a désobéi. Et Dieu ne veut plus que Saül, parce qu'il ne se repent pas, parce qu'il s'enfonce dans son péché, sa rébellion, sa désobéissance, il va perdre son onction. Alors, il y a beaucoup de choses à dire à propos de savoir si on peut perdre son onction du ministère ou pas, etc., etc. Il y aurait énormément d'enseignements à faire là-dessus. Alors, au chapitre 16, et particulièrement donc le verset 13, en fait, le Seigneur va, enfin, au début du chapitre 16, va diriger donc, va diriger Samuel dans la maison d'Isaïe. Et David, le petit délaissé, c'est celui que le Seigneur va choisir. Nous connaissons tous cette histoire. Et au verset 13, il est dit, Samuel prit la corne d'huile et loignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel, regardez bien ici, s'empara de David, et à partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14, l'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül. Et pourquoi? C'est très simple, parce qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule onction royale. Si l'onction arrivait sur David, elle était obligée de s'écarter de Saül. C'est normal. Et c'est là où des mauvais esprits sont venus sur lui, parce qu'il était complètement dans la rébellion et la désobéissance, jusqu'à temps qu'il s'auto-détruise. Et en fait, on voit d'ailleurs à partir de ce moment-là, l'onction sur David grandir, et plus d'onction sur Saül. Saül va tenir une fonction sans onction. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça sera une catastrophe totale. Le peuple va perdre confiance en lui, enfin, il va y avoir tout un tas de symptômes tout à fait classiques quand quelqu'un n'a pas d'onction et qu'il est dans une fonction. Alors, on pourrait aussi étudier ça, c'est pas mon sujet, mais il y aurait de quoi étudier sur ce sujet-là. Mais on voit que l'onction part de Saül, c'est David qui reçoit cette onction. Mais ce qui m'intéresse là surtout, c'est de voir que c'est un prophète qui est envoyé et que il lui verse la fiole d'huile et instantanément, à partir de ce moment-là, nous dit la parole de Dieu, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Parce que c'était encore un ordre divin. Donc l'onction, dans l'Ancien Testament, en tout cas dans les exemples que nous avons, où nous voyons des gens qui commencent à être oints, on ne voit jamais que c'est à l'initiative d'un homme. C'est toujours à l'initiative de Dieu. Par contre, ça passe par des hommes, et nous savons pourquoi, parce que ces hommes n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, ils ne pouvaient pas être dirigés par le Saint-Esprit. Donc d'un seul coup,
de rien qu'ils étaient, ils se retrouvaient dans des positions avec une onction particulière. Saül n'est rien, c'est un fils d'un grand fermier, et d'un seul coup, l'onction va venir sur lui, et il se retrouve roi. Et il est lui-même étonné. David, c'était un petit berger, et d'un seul coup, l'onction descend sur lui. Et toujours, à l'initiative de Dieu, par un instrument là. Les autres, comme Abraham, on ne peut pas dire que quelqu'un est venu et lui a dit, voilà, le Seigneur, fais-toi un prophète. Comment est-ce qu'Abraham a reçu son onction prophétique? Je ne sais pas. Apparemment seul, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la première expérience qu'il a faite, quand le Seigneur lui a dit, sors de ta patrie, sors de ta famille, est-ce que c'est là? Je ne sais pas. On ne sait pas, la Bible ne nous le dit pas. Melchisédek, on ne sait pas. Par contre, Aaron, ses fils et tous ses descendants, on le sait. Puisque la Bible est claire là-dessus, c'était une ordonnance divine. Donc on voit clairement que dans l'Ancien Testament, les onctions n'étaient pas distribuées comme ça n'importe comment, mais il y avait un ordre divin. Une ordonnance divine. C'est Dieu qui, à son initiative, choisissait des personnes et à ce moment-là mettait une onction. Ok? Alors, regardons ensemble maintenant certaines choses à propos de Élie et Élisée. Élie et Élisée, j'ai pas la référence, c'est dans 1 roi. Je peux noter cette référence. Si j'ai noté, 19, excusez-moi. 1 roi 19, si j'ai la référence. 1 roi 19, verset 15 et verset 16. Vous savez que Élie avait remporté une immense victoire. Il y avait beaucoup de péchés, d'idolâtrie dans le pays d'Israël. Et d'un seul coup, Dieu donne à Élie vraiment la puissance qui va, le feu qui descend. Les prophètes de Baal sont égorgés. Mais le roi et la reine sont tellement pervertis, tellement méchants, qu'ils veulent surtout la reine Jézabel, va absolument retrouver Élie et le mettre à mort. Donc Élie, lui, il vit un moment difficile. Et là aussi, on voit ô combien les prophètes de l'Ancien Testament particulièrement vivaient des choses extrêmement difficiles, des attaques diaboliques terribles. Élie se retrouve complètement par terre alors qu'il vient de remporter une histoire, vraiment une victoire majestueuse, absolument fabuleuse. Mais il se retrouve à déprimer. Il en a tellement marre qu'il dit « Ok, moi, ôte-moi la vie, Seigneur, j'en ai assez, j'en peux plus. J'y arrive plus, je tiens plus. En fait, je tiens plus dans le ministère. » Et il a vécu des moments extrêmement difficiles, une dépression très difficile. Et Dieu va lui dire quelque chose. Verset 15, il est dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu donneras, ça y est, encore une fois, quelqu'un qui va quoi? Qui va donner l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meola, comme prophète à ta place. Donc là, on voit que un homme va être encore délégué par Dieu pour donner les onctions. Et je vous rappelle que là, quand Élie va arriver et va trouver Élisée, il va mettre le manteau sur lui, mais Élisée va être appelé là, mais ne va pas être loin mis à part à ce moment-là. Rappelez-vous que l'onction va partir, le fait que Élie va mourir, l'onction va se retirer de lui, puisque c'est la mort physique qui fait que l'onction se coupe d'un ministère. C'est normal, puisque la chair n'est plus là, le corps n'est plus là. Et à ce moment-là, cette onction va descendre. Parce que l'appel, c'était « Oindre Élisée à ta place ». Et la seule façon dont Élisée pouvait recevoir l'onction d'Élie, c'était quand Élie allait mourir. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que ça s'est fait comme ça, d'ailleurs, à ce moment-là. Ok ? Mais enfin, dans l'Ancien Testament, c'est clair. Donc, ces trois onctions, vous les verrez, elles agissent. Il y a des gens qui s'initient prophètes, d'ailleurs, au moment où on sera prêt de ce que le roi Ézéchias vienne envahir Israël. Il y avait tout un tas de prophéties, hein, fausses prophéties, de la part de gens qui ont entouré des rois. Et ces rois se sont laissés flatter par ces faux prophètes, etc., etc. Donc, on sait que même dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui n'étaient pas clairs. Ça, c'est sûr. Qui se disait dans telle ou telle fonction et qui n'avait pas d'onction. Mais l'ordonnance divine est claire. C'était un homme envoyé, donc un homme qui est dans le ministère, qui est envoyé vers un autre homme pour le oindre. Ça, c'est ce qu'on... Maintenant, je vous dis, avant la loi, on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement comment
ils recevaient leurs onctions? Est-ce que c'était dans des expériences personnelles? Apparemment oui. Est-ce que c'était des gens qui voignaient d'autres, entre guillemets, avec une ordonnance divine? Eh bien, on ne savait pas exactement, on n'a pas su préciser. Alors maintenant, nous allons voir la leçon numéro 2, qui est l'onction sur Jésus. L'onction sur Jésus, notre modèle. L'onction sur Jésus, notre modèle. L'onction sur Jésus, notre modèle. Alors, souvent, les chrétiens ne comprennent pas à propos du Seigneur, à propos de son onction. Il y a pas mal de gens qui font des commentaires parfois. Alors, on a vu parmi les cathos faire des trucs, des histoires de Jésus qui prenait du sable dans ses mains quand il était petit. Et hop, il faisait un petit oiseau avec, et le petit oiseau s'envolait de ses mains. Enfin, des histoires, toutes sortes de fables qui ont été inventées. Des protestants qui n'ont pas compris non plus comment Jésus fonctionnait au niveau de l'onction. C'est très, très, très courant. Et là aussi, il faut être bien clair par rapport à l'onction que le Seigneur avait alors qu'il exerçait son ministère terrestre. Alors, notez que Jésus, sur la terre, était 100% Dieu et 100% homme. Jésus sur la terre était 100% Dieu et 100% homme. Donc c'était pas 50% Dieu, 50% homme comme certains l'ont prêché, d'accord ? Il y en a qui disent ça, moitié homme, moitié Dieu. Non, 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 non. Jésus n'était pas demi-Dieu ou demi-homme. Il était 100% Dieu et 100% homme. Parce qu'il y a certains qui ont prêché ça et qui ont fabriqué des fausses doctrines à partir de cela et qui rentraient tout à fait dans les histoires mythologiques, entre autres grecques, vous savez, les demi-dieux et demi-hommes. Et d'ailleurs, entre autres, les Colossiens, je vous rappelle qu'ils étaient un peu influencés par ce genre de truc un peu bizarroïde qui s'appelait le gnosticisme. Alors, Jésus, donc, va recevoir une onction à un certain moment. Mais d'abord, on va regarder le premier texte ensemble, c'est Philippiens 2. Philippiens 2, pour nous montrer l'humanité totale de Christ et la divinité totale de Christ sur la terre. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher à être égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à avoir une indépendance de Dieu le Père sur la terre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Jésus n'a pas fait les choses de son propre chef alors qu'il était incarné. Dieu le Fils incarné n'a pas voulu jouer l'indépendance. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Donc ici c'est clair. Dieu, homme. Dieu qui s'est fait homme. Après s'être trouvé dans la condition d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc ça, c'est absolument indispensable. C'est une doctrine, vous le savez, qui est absolument indispensable à croire hein, que Jésus, 100% Dieu et 100% homme sur la terre. Bon. Donc, Jésus va naître. Jésus, Dieu le Fils s'incarne et revêt un corps 100% comme le nôtre dans le sens où c'est un corps fait de matière. Donc 100% Dieu, 100% homme sur la terre. Alors maintenant, il faut comprendre une chose. Notez que Jésus n'a pas exercé son ministère. Jésus n'a pas exercé son ministère en tant que Dieu le Fils sur la terre. Jésus n'a pas exercé son ministère en tant que Dieu le Fils sur la terre. Mais il a exercé son ministère terrestre. Donc Jésus n'a pas exercé son ministère en tant que Dieu le Fils, en tant que Dieu le Fils sur la terre, mais il a exercé son ministère terrestre en tant qu'homme oint par le Saint-Esprit. Mais il a exercé son ministère terrestre en tant qu'homme oint par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est quelque chose à bien comprendre. Quand il s'agit du pardon des péchés, c'est Dieu qui est sur la terre. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Ça, on est d'accord. Et le ministère tel quel, il m'a oint pour, obligatoirement, c'est relaté à l'onction. Vous comprenez bien la différence. Jésus n'a pas guéri les malades en tant que Dieu le Fils sur la terre. Il a guéri les malades en tant qu'homme oint du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il était Dieu le Fils qu'il a guéri les malades, mais c'est parce qu'il a été oint par le Saint-Esprit. Alors, c'est très simple à prouver. Il y a plusieurs écritures qui nous montrent que Jésus avait besoin d'une onction. Parce que d'abord, jusqu'à l'âge de 30 ans, la Bible est claire, Jésus n'a rien fait au niveau du ministère. La Bible nous donne très très peu de renseignements jusqu'à l'âge de 30 ans de ce que Jésus faisait. On savait que c'était le fils du charpentier. Ok. Jésus était dans la maison, je dirais, paternelle. Joseph, d'ailleurs, se dit en passant, on n'en entend plus parler au bout d'un certain temps, et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça a toujours été étonnant. Marie, on voit régulièrement, on la voit au travers des évangiles, on la voit même au début des Actes des Apôtres. Joseph, on ne sait pas. À 12 ans, on sait que Joseph était là, quand Jésus avait 12 ans, quand il est dans le temple. C'est tout ce qu'on a sur la préadolescence de Jésus, entre guillemets. On sait, on a des événements qui entourent clairement sa naissance, c'est marqué dans la Bible. Ensuite, un événement à l'âge de 12 ans, quand il est dans le temple et qui confond tous les grands sages, là, les scribes, les pharisiens, avec les Écritures. Là, il y a encore Marie et Joseph, mais Joseph après, on ne sait pas ce qu'il est. Donc, est-ce que Jésus a continué à être charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans? Apparemment, oui, c'est ce que la tradition nous dit. Hein, il est resté à Nazareth, oui, apparemment, puisqu'il y retourne, Luc chapitre 4, et là, c'est là où il a grandi, ok. Mais c'est tout ce qu'on sait. Le reste, on ne sait pas plus. Par contre, dans Luc, chapitre 3, verset 23, la Bible va nous montrer quand est-ce que Jésus, à quel âge Jésus va commencer son ministère. Et qui dit ministère, rappelez-vous, dit onction. Il n'y a pas de ministère sans onction. Et il n'y a pas d'onction sans ministère. L'onction amène un ministère. C'est clair. Alors, verset 23, il est dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. etc. » Donc on sait que Jésus commence à 30 ans à exercer son ministère terrestre. C'est pour ça qu'on sait aussi que, environ, quand on compte, quand on fait donc la chronologie de tous les évangiles, on arrive environ à 3 ans et demi de chronologie. C'est pour ça qu'il est dit, c'est juste, qu'environ à 33 ans et demi, Jésus va mourir sur la croix. Donc Jésus va exercer 3 ans et demi son ministère. Mais quel ministère! Waouh! Quel ministère! Absolument fabuleux. Mais, à l'âge de 25 ans, Jésus ne fait rien. À l'âge de 27 ans, Jésus ne fait rien dans le ministère. À l'âge de 29 ans, Jésus ne fait rien dans le ministère. À l'âge de 30 ans, il se passe un événement, et alors, Jésus entre dans le ministère, et là, va absolument porter plein de fruits. Et qu'est-ce que la Bible nous dit, bien évidemment, avant ce ministère, enfin, comment ça s'est passé pour qu'il entre dans le ministère? Eh bien, verset 21 et verset 22 nous montrent ce qui s'est passé. Alors, c'est Jésus qui se fait baptiser, mais lors du baptême de Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Alors beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Ça, c'est la grande question en général. Et la réponse qui ressort le plus et qui me paraît être la plus juste, c'est qu'en fait, Jésus s'est fait baptiser d'abord pour vraiment s'identifier complètement à la race humaine, pour montrer qu'il était vraiment homme, et d'autre part, en signe de soumission totale. En signe de soumission totale, donc identification à la race humaine, et soumission totale à la volonté du Père. Donc ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que Jésus avait reçu comme direction pour commencer le ministère, etc., etc. On ne sait pas. On ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien. Ça, ça reste toujours un peu mystérieux. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ça. Mais comme on ne sait rien, il vaut mieux se taire. D'accord ? Quand on ne sait rien, on ne peut pas spéculer. Parce qu'on peut dire, mais comment Jésus savait-il, etc. Oui, quand il est bébé, bah, il réagit comme un bébé au départ. Tout ça, ça nous fait poser beaucoup de questions. On peut se poser beaucoup de questions, tout à fait. Ce qui est tout à fait normal. Mais vous aurez toutes les réponses quand vous serez au ciel. Jésus vous montrera exactement ce qu'il a fait quand il avait cette âge-là. Alors, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Il vint d'une voix, une voix du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Donc, il y a une approbation là. Le Père est en train d'approuver en mettant son onction. Et regardez bien, ici, il y a la Trinité qui est en action. Le Fils qui s'est incarné pour faire la volonté du Père, parfaite. Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi. Parce qu'il n'y a personne qui peut racheter l'humanité. Le Fils s'incarne. Il grandit et il y a un jour J, une H, une minute M, une seconde S, où il va se passer un événement. Et là, le Père parle. Le Saint-Esprit vient comme approbation. Maintenant, c'est le temps. Tu dois entrer dans ta mission. Vous voyez, c'est tout à fait typique de l'onction. Jésus savait, depuis le ciel, qu'il allait exercer un ministère terrestre. Ça, il le savait très bien. Il connaissait le plan du Père. Il savait pourquoi le Père l'avait envoyé. Mais Jésus n'a pas été trop rapide. Il n'a pas voulu faire des choses sans l'onction. Parce que sinon, il aurait été dans la désobéissance. On ne peut pas exercer de ministère sans avoir été loin. Ça, c'est clair. Jésus n'a pas fait cette erreur. Il est notre exemple. Jésus a attendu. Jésus aurait très bien pu commencer son ministère à 25 ans. Pourquoi pas, selon l'homme. Mais le Père avait décidé autrement. Bon, il y a des gens qui disent, oui, 30 ans, c'est l'âge aussi où un juif est reconnu comme étant mature, indépendant, etc., etc. C'est un peu l'âge où on considère que c'est un sage, hein, ce qu'on appelle ici les Mushimanaï, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on considère que vraiment c'est quelqu'un qui a suffisamment de maturité pour réellement être écouté, pouvoir dire quelque chose et être indépendant en quelque sorte, dirions-nous. Alors, ici on voit Jésus attend et tant qu'il ne reçoit pas cette onction, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et rappelez-vous, dans le cœur de Dieu, ça brûlait d'aller sauver l'humanité. Depuis des millénaires. Et le jour J où Jésus allait recevoir cette onction, croyez-moi que Dieu le Père l'attendait pour l'humanité. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Israël va être visité. Ce peuple qui était dans les ténèbres va avoir une grande lumière, etc., etc. Relisez le début de l'évangile de Matthieu. C'est tout ça qui est en train de se passer. Et Jésus est une immense lumière qui vient, la lumière du monde qui vient et qui va, à partir de ce moment-là, visiter toutes les villes, tous les villages. Il va aller partout, 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 exercer son ministère. Mais avant cela, il ne bouge pas. Il ne fait rien. Il est là, gentil, garçon, mûr, à la maison, apparemment. C'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus. Il n'est pas en étant dans la synagogue en train de contester tous les scribes, les pharisiens, et faire tout le tour, de jouer les grands docteurs. Moi, je suis Dieu le Fils, moi. Hein, il attend. Et au moment, l'onction tombe sur lui. Et là, d'un seul coup, tout démarre, tout se déclenche. Quand l'onction tombe sur quelqu'un, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça, je vous le dis. Il se passe quelque chose de spécial dans cette personne. La personne reçoit cette onction, il le sait, et à ce moment-là, tu vas dans ta position, c'est-à-dire tu remplis ta fonction, tu commences à marcher dans ton appel. Tant que tu n'as pas d'onction, tu ne peux pas marcher dans ton appel. Tu ne peux pas marcher dans ton appel. Tu peux être appelé, ça peut même brûler en toi. Tant que tu n'as pas d'onction, tu ne peux pas marcher dans ton appel. Si tu as le malheur de vouloir marcher dans ton appel sans onction, ça ne portera quasiment aucun fruit, même aucun fruit. Il y aura des fruits apparents, mais tu vas vers le naufrage. Et en fait, souvent, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On retarde le moment où Dieu voudrait nous oindre. Parce que Dieu voit qu'on n'est pas prêt à être oint.
Mais Dieu voit qu'on est encore prêt à faire notre propre volonté. Et Jésus le dit bien. Il y a les principes ici qui sont importants. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous savez, quand Jésus déclarait ça, ce n'était pas un joli discours qu'il voulait faire devant les gens, c'était une puissante réalité qu'il vivait. C'est là où est toute la différence. Et malheureusement, on voit trop de gens qui veulent entrer alors que l'onction n'est pas là. Parce qu'ils ont été bénis, parce qu'ils ont été au bénéfice de l'onction de certains ministères pendant un certain temps. Et gloire à Dieu pour tout ça, on va voir cet aspect des lois de l'onction. C'est normal, t'es influencé, et c'est bon. Mais tant que t'as pas ta propre onction, tu peux pas fonctionner dans ton onction. T'es toujours obligé d'être soumis à une onction d'un serviteur de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu fais une grave erreur. Jésus, lui, il était tranquille. Il aurait pu dire à son cousin, « Hey cousin, ça va Jean-Baptiste, allez maintenant, calme-toi. Je suis Dieu le Fils. » Non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus a attendu de recevoir l'onction. Et quand il a reçu l'onction, c'est là où tout a commencé, c'est là où tout a démarré. Alors, regardons encore une preuve de ce que je vous dis pour l'instant. Dans Jean 2, verset 11. Jean 2, 11. Vous savez, c'est des principes qui sont inviolables et qu'on voit souvent que des chrétiens veulent violer. Ce sont des lois spirituelles. On ne peut rien y faire. Vous savez, il y a des fois des gens, on se demande pourquoi Dieu les oint. On se dit, mais moi je suis meilleur que lui. Moi je prêcherai mieux, même mieux que lui. Je parle mieux que lui, ou qu'elle, ou ceci ou cela. Pourquoi Dieu oint certaines personnes? C'est pas pour ses qualités. C'est pas parce qu'il est très éloquent, c'est pas parce qu'il est très intelligent, c'est pas parce qu'il est très riche, ou très pauvre, ou très ceci, ou très cela, ou tout ce que tu veux, ou qu'il crie très fort, amen, alléluia. Non. Dieu oint parce qu'il voit les cœurs, c'est tout. C'est tout. Et quand on a une onction, on a aussi une grande responsabilité. Alors ça aussi, beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est là où beaucoup de gens s'y dérapent. Des fois, devant l'adversité, ils se découragent tellement qu'ils disent « Non, non, moi si c'est ça le ministère, j'arrête tout. » Et ils sont juste à côté de leur percée spirituelle. Et c'est là où ils ne persévèrent pas et ils renoncent à tout, ils reviennent en arrière. Il y en a aussi beaucoup des gens comme ça. Enfin, j'en ai vu passer, je vous dis. Des fois, ça fait mal au cœur. Des gens, des fois, qu'on aime bien, on voit, ils sont brillants. Ils ont un avenir brillant. On se dit vraiment, ils sont doués. Vraiment, le Seigneur est en train de les utiliser. Et après, on les voit se retirer. Ça fait mal. Chapitre 2. Chapitre 2 de Jean. Vous savez que ce sont les noces de Cana. Et les noces de Cana, ça a été un fait assez marquant. D'ailleurs, ce miracle, il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions. Pourquoi Jésus transforme de l'eau en vin? Bien les questions ont été suscitées. Mais je ne rentrerai pas dans les polémiques. Mais on se demande pourquoi. Il y a certains qui ont dit, est-ce que c'est un miracle gratuit, quasiment, entre guillemets? Est-ce que c'est utile? Est-ce que quelqu'un souffrait? Est-ce que, bon, il y a eu plein de commentaires sur ce sujet. De l'eau en vin aussi, du bon vin. Oui, moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire que c'était du bon vin. Verset 11, il est dit, tel fut à Cana en Galilée, le commencement. Regardez bien, le commencement. Des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc c'est clair que le premier des miracles que Jésus a fait, c'est ici. Et ce miracle ne se passe pas avant le baptême de Jésus. C'est très clair. Jésus va être baptisé et quand il va être baptisé, il va être oint. L'onction de Dieu va descendre sur lui. Et c'est seulement là où Jésus va exercer son ministère et là, il va se passer plein de choses. Donc, c'est clair, il y a un départ. Dans l'onction, il y a un départ. Il y a un moment particulier, il y a un jour J où la présence de Dieu descend sur vous et vous oint. Là, vous voyez, Jésus n'a été oint par personne. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui avait été envoyé par le Père pour que l'onction soit sur Jésus. Là, c'est Jésus qui reçoit directement l'onction du ciel. Ok ? On verra dans d'autres exemples où l'onction, c'est une expérience qu'on peut faire soi-même. Quand Dieu oint quelqu'un, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin forcément, et loin de là d'ailleurs, la majorité du temps,
C'est des gens qui reçoivent une onction alors qu'ils sont eux-mêmes en train de passer du temps avec le Seigneur. Ils reçoivent l'onction de leur ministère. Regardons ensemble Jean 3, verset 34. Ah oui, non, Jean 14, 12 d'abord. Jean 14, 12, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, à propos du fait que Jésus a exercé son ministère en tant qu'homme oint du Saint-Esprit. Jean 14, 12. Alors un verset qui aussi a fait couler beaucoup d'encre. Jean 14, 12, ça a suscité bien des commentaires. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Les œuvres, c'était quoi? Ben, tout ce que Jésus a fait, c'est quoi? Il a prêché, il a libéré les démoniaques, il a guéri les malades, etc. Il a fait des miracles, etc., etc. Et il dit, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors, si Jésus avait exercé son ministère, avait fait donc les œuvres, en tant que Dieu le Fils, comment est-ce qu'il aurait pu déclarer ça? Ça, c'est la première question qu'on pourrait se poser. Si Jésus a exercé son ministère en tant que Dieu le Fils, il dit, quelqu'un qui va croire en moi va faire des œuvres plus grandes. Donc, la question, c'est que, qui pourrait être plus grand que Dieu le Fils? Personne. Donc, c'est clair que Jésus, ici, sous-entendait que son ministère, ses œuvres, il les a réalisées, il les a faites en étant oint, en tant qu'homme oint. Alors maintenant, une deuxième question tout de suite qui saute dans nos têtes, qui trépigne, c'est de se dire, mais que veut dire des œuvres plus grandes? Est-ce que quelqu'un pourrait faire des choses plus grandes que le Seigneur? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, il y a eu plusieurs réponses à cela, plusieurs commentaires. Je vous laisserai faire votre choix, mes chers amis. Alors d'abord, la première œuvre plus grande qu'on peut faire que Jésus, bien sûr, c'est de prêcher son évangile. Parce que Jésus n'a jamais prêché directement son évangile, je vous le rappelle. En tant qu'homme oint du Saint-Esprit, Jésus n'a jamais annoncé son évangile, en sens où Jésus ne pouvait pas amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Nous pouvons amener des âmes à la nouvelle naissance. Et ça, c'est le plus grand des miracles. Ce sont les plus grandes œuvres. Deuxième chose aussi, c'est qu'il est vrai que quand, par exemple, on regarde certains ministères autour de la terre aujourd'hui, au niveau onction, de toute façon, Jésus était imbattable. Ça, c'est clair. Jésus était imbattable au niveau onction. Maintenant, au niveau nombre, je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des œuvres plus grandes que le Seigneur tel quel. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde sur la terre. Par exemple, Bunke a réuni en une seule réunion 6 millions de personnes au Nigeria. Je ne sais pas si vous voyez 6 millions de personnes, ce que ça représente. Ça ferait pratiquement la population de notre cher pays au Burundi. En une seule réunion. C'était à perte de vue. D'accord? C'est fou. Il y a d'autres prédicateurs récemment. Je crois que Bénin a réuni 2 millions ou 3 millions de personnes en Inde. Évidemment, il y a beaucoup plus de population aujourd'hui, d'accord? Il y en a 20 fois plus à peu près aujourd'hui sur la Terre qu'au temps de Jésus. Alors c'est sûr qu'on peut prêcher à beaucoup plus de gens en même temps. Au travers de la télévision chrétienne, par exemple, TBN est sur 200 nations dans le monde. Il y a des millions et des millions de gens qui regardent certaines émissions. L'impact que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est sûr, au niveau nombre, est plus grand que celui que le Seigneur avait, c'est clair. On voit que le Seigneur avait réuni des foules, voire 15 000, voire 20 000 personnes. Ce qui était gigantesque à l'époque, par rapport à la population qu'il y avait en Israël. C'était énorme. Les gens venaient de toutes les villes et les villages, mais on ne peut pas les inventer, les gens. Si vous avez tant de milliers de personnes qui habitent dans une région, vous ne pouvez pas en avoir plus à ce moment-là. Par contre, aujourd'hui, évidemment, il y a des concentrations de population qui sont beaucoup plus importantes sur la Terre. Alors, certainement que Jésus voulait dire ça, parce que de toute façon, au niveau onction, il est impossible qu'un homme ayant un corps mortel ait eu autant d'onction que Jésus, je vais vous le montrer dans l'Écriture. Regardons dans Jean 3. Jean 3, verset 34. Jean 3, 34. Jean 3, verset 34. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé, donc évidemment nous savons qui Dieu le Père a envoyé, c'est Dieu le Fils, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit. Regardez bien les deux derniers mots. Sans mesure. sans mesure. La Bible nous montre que Jésus avait une onction. La Bible nous montre que Jésus avait une onction sans mesure. Nous avons une onction avec mesure. Parce que je peux vous dire une chose, quand l'onction se répand un tout petit peu quelque part, les gens dégomment. Ils sont dégommés. Pouf! Quand il y a eu dans les réveils de Pentecôte au début du siècle dernier, il y avait des gens qui sont restés, je crois, plus d'une semaine, voire deux, sous la puissance de Dieu par terre. Ils étaient littéralement électrifiés. Quand ils se sont relevés, ils n'étaient plus les mêmes, je peux vous dire. Il y a des gens parfois qu'on a vus, même dans les puissants mouvements du Saint-Esprit des 15 dernières années, collés à des murs à 3 mètres de hauteur pendant des heures et des heures. Personne ne pouvait les décoller. Collés à 3 mètres de hauteur. Tout comme ça, contre un mur d'église. Il y a eu des puissantes manifestations. Et quand des gens sont un peu touchés par la superpuissance de Dieu, ils dégomment. Donc notre corps ne peut pas supporter facilement la présence de Dieu. Parce que notre corps est mortel, notre corps a l'héritage de la chute, rappelez-vous. Dieu est un Dieu qui est saint. Il a mis sa gloire et sa sainteté en nous. Nous portons cela dans des vases. Mais il faut dire une chose, ces vases sont fragiles. Hein. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que des gens, quand on prie pour eux, qu'il y a une certaine onction qui parfois, des fois, n'est pas très très forte, ils dégomment, ils tombent par terre. Maintenant, quand cette onction est beaucoup plus forte, les gens restent par terre beaucoup plus longtemps en général. Parce qu'ils sont comme électrifiés, si vous voulez. C'est parce que le corps ne supporte pas. C'est notre corps qui ne supporte pas la présence de Dieu. Dans le sens à grosse dose. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand la onction est plus ou moins forte, il y a un moment où on est comme électrifié, comme si on avait les mains dans une prise de courant. Il y a des moments où c'est très très fort. Il y a des gens qui ressentent des onctions tellement fortes que les mains brûlent. Hagin raconte ça. Quand il a fait des expériences avec le Seigneur. Benin dit parfois, mes mains sont tellement chaudes, elles sont brûlantes. Il dit, je ressens telle électricité qui me traverse, comme de l'électricité qui me traverse d'une façon... Il y a des gens, des fois, qui veulent le toucher. Dans le sens où, quand il tombe, il fait attention que les gens ne tombent pas sur lui, parce que lui aussi, il risque de tomber. Une fois, moi, j'ai vu dans une réunion en 93, il y a quelqu'un qui est tombé devant, et il a touché Benin, d'un seul coup, et Benin était comme électrifié. Si vous voulez, il s'est retrouvé par terre comme ça, mais comme un... aussi, parce que lui-même a reçu cette décharge, entre guillemets, électrique du ciel, bien sûr. Donc ici, la Bible nous montre clairement que Jésus avait l'esprit sans mesure. Donc il est clair qu'au niveau de l'onction, il n'y a personne sur la terre, en tant qu'homme, qui a été autant loin et qui ne sera autant loin que le Seigneur. Ça, c'est clair. Par contre, au niveau de l'impact, comme le Saint-Esprit nous a été donné, et que le Saint-Esprit peut se répandre d'une façon très spéciale, aujourd'hui, avec la Nouvelle Alliance, Jésus n'était pas encore sous la Nouvelle Alliance. Rappelez-vous, lui, il avait un corps non mortel, c'est pour ça qu'il pouvait supporter l'onction sans mesure. Nous avons un corps mortel, c'est pour ça que nous pouvons avoir des petites doses d'onction. Et qu'au-delà de certaines doses d'onction, on commence à avoir du mal à résister. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas supporter beaucoup d'onction. C'est pour ça que Dieu est obligé d'y aller tout doucement avec nous. Hein ? De déverser qu'un peu, parce que sinon on ne pourrait pas revenir. Hagin raconte certaines expériences prophétiques, où l'onction prophétique était tellement forte sur lui, qu'il était tellement dans l'esprit, qu'il disait à lui-même, j'avais peur de ne pas pouvoir revenir dans le naturel au bout d'un certain temps, parce que ça durait des heures et des heures et des heures. Et qu'il y a des moments où il était complètement pris dans l'esprit. Vous voyez, ça peut parfois faire peur. L'onction peut faire peur parfois. Il y a des manifestations parfois qui peuvent faire peur. Même des fois quand vous priez pour les gens et que vous avez une onction qui est, je dirais pas extrêmement forte sur vous déjà, ça peut faire peur. Parce que vous voyez les gens faire des trucs, waouh. Et vous pouvez être très étonné simplement en touchant les gens ou en vous approchant simplement des personnes. Cette onction rayonne sur ces personnes. Alors imaginez Jésus, l'onction sans mesure. Mais nous avons notre corps mortel, donc au niveau de l'onction, c'est clair que nous ne pouvons pas faire mieux que Jésus. Ça c'est clair. Par contre, au niveau du message, de l'impact, parce qu'on est dans la Nouvelle Alliance, donc il y a des nouveaux privilèges de la Nouvelle Alliance, dont Jésus ne pouvait pas faire bénéficier des foules, nous pouvons le faire. Et à ce moment-là, le nombre de personnes qui peuvent être touchées, parce que Jésus maintenant, en esprit, au travers de son Saint-Esprit, peut toucher à la fois des millions de gens sur toute la planète entière en même temps. Imaginez-vous, vous avez un prédicateur qui est là en train de prêcher sous l'onction, il est prêt avec des caméras, et sur toute la planète, cette onction peut se déverser sur les personnes. Le Seigneur ne pouvait pas faire ça parce qu'il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas les moyens de communication. Vous imaginez un peu l'impact aujourd'hui qu'on peut avoir. Et Jésus a certainement dit ça dans Jean 14, 12, dans ce sens-là. Sinon, au niveau de l'onction, lui, il pouvait supporter une onction sans aucun problème, sans mesure. Nous portons une onction, nous supportons une onction qui est avec mesure, il faut le dire, parfois pas avec énormément de mesure, parce qu'on a du mal à la supporter. Voilà pour ce cours.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.